Jésus est venu, la naissance, la crèche, annoncer une suite. La suite, nous la connaissons, c'est lorsqu'il a accepté de donner sa vie sur la croix. Alors, ce n'est pas pour mettre un bémol à cette période ou gâcher cette période de fête entre la naissance et l'arrivée d'un nouveau-né et la mort de la même personne. C'est quand même quelque chose, c'est une réalité. Aujourd'hui, on est plutôt à nous rappeler de la naissance. Mais je voudrais en même temps nous rappeler, comme ça a été dit dans certaines prières, que sa raison, la raison de sa venue, c'était lié à notre péché et au pardon dont nous avions besoin. Alors on va faire une lecture comparée entre Matthieu 18, 21 et Ésaïe 55. Matthieu 18, 21. Une des questions que Pierre posera à Jésus, il en posera plusieurs, notamment celle-ci, parce qu'il a compris le message que le Seigneur vient de donner. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Et cette réponse, elle nous fait réfléchir. Alors certaines la prennent au premier degré, font le calcul. Moi, je pense qu'il ne faut pas la prendre au premier degré, c'est une dimension qui nous est indiquée, qui est beaucoup plus élevée que peut-être celle à laquelle nous penserions, et qui est la raison de la venue du Seigneur sur la terre, c'est pardonner. Alors on va faire cette lecture du chapitre 55 d'Ésaïe. C'est un chapitre magnifique. Dans Ésaïe, cet homme de Dieu, il y a des paroles extraordinaires, Ésaïe 53, on connaît. Ésaïe 59, Ésaïe 55 est un passage aussi magnifique. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est cela que l'on retiendra. Voilà pourquoi Jésus dira, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il met un absolu, tout simplement parce que la parole faite chair ne peut pas annoncer, Jésus ne peut pas dire autre chose que ce que le Père dit parce qu'il est la parole, c'est lui. Donc il va redire ce qui avait déjà été dit sous l'inspiration de l'Esprit par le prophète Ésaïe, il va le redire autrement. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et Pierre, qui connaissait quand même la parole, n'a peut-être pas pensé à ce passage. Et quand il pose cette question, combien de fois pardonnerai-je, il ne pense peut-être pas à l'intention de Dieu quant au pardon. Il ne se lasse pas de pardonner. Et Jésus le redira autrement jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et moi, je voudrais le ramener là. Il ne se lasse pas de pardonner. C'est difficile à concevoir. Ne pas se lasser de faire une chose. Et notamment celle-ci, qui est quand même une des plus dures, si ce n'est la plus difficile, celle de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Les pensées de Dieu, évidemment, ne sont pas les nôtres. Ses sentiments non plus, et ses capacités non plus. Il a la capacité de ne pas se lasser. Juste un petit exemple en introduction. Hier, on a entendu ce témoignage un petit peu difficile concernant une famille dont le papa est en train de mourir du cancer. Et il a des enfants, notamment deux garçons, qui ne se parlent plus, se sont disputés. Il y en a un qui est à l'autre côté du monde. Et le message leur a été envoyé, mais au moins pour Noël, revenez. Parce que pour papa, il n'y a plus que 3 mois d'espérance de vie. Et niette, rien à faire. Alors je vais faire juste cette parenthèse, mais ça c'est la réalité aujourd'hui des dégâts dans les cœurs et les conséquences dans les familles qui vont jusque-là. Nous sommes dans une période qui est particulière dans l'année, c'est celle où on se rappelle qu'il est venu et la raison de sa venue. Et en le rapportant à ces textes de la parole, Dieu ne se lasse pas. Dans la mesure où Dieu ne se lasse pas et qu'il est mon Père et que je suis rendu participant de la nature divine, je crois que nous ne pouvons plus dire, et peut-être que si c'est au futur qu'il faut le conjuguer, nous ne pourrons plus dire désormais que ça nous fatigue, que des choses nous fatiguent, dans la mesure où Dieu ne se lasse pas. Et nous sommes au bénéfice d'une capacité pareille, d'un potentiel comme celui-là, ne pas se lasser de pardonner. Parce que la finalité, c'est le salut des âmes. C'est le salut des hommes et des femmes qui se perdent. Et si rien ne change avant le départ d'ici-bas, rien ne changera après. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il faut payer le prix. Parce que forcément, il y a un prix à payer. Alors je voudrais, sans être trop long, comparer des paroles de Jésus comme on a comparé les paroles du Père et les paroles rapportées par le Fils. Je voudrais comparer les mêmes paroles de Jésus à deux moments différents. Moment où les disciples l'interrogent en lui disant « Enseigne-nous à prier » et le moment où il est sur la croix. Il y a des paroles que l'on peut comparer simplement. La prière que Jésus va indiquer aux disciples, ou plutôt la manière de prier, commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Notre Père qui est aux cieux. Et tout dans notre vie doit être orienté de cette manière-là. Souvent, nous avons des pensées, quand nous prions, qui ne sont peut-être pas foncièrement orientées vers la parole de Dieu, mais orientées parce qu'on est concentré et on est en plein dans la situation que nous traversons. Donc on est concentré sur la situation, sur nos pensées. Et il serait bon d'être concentré sur les pensées de Dieu et ce que le Seigneur a dit. Et on fait le parallèle immédiat avec certainement la première parole que Jésus dira sur la croix, « Père, pardonne-leur ». Et quand un homme, dans le monde, où qu'il soit et quelle que soit l'époque, commence par dire « Notre Père qui es aux cieux », il y a une correspondance immédiate avec la première parole de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur ». Et dans notre prière, le début doit être calé sur le pardon, et pas sur les besoins. Les besoins, ils existeront toujours, et le Seigneur répondra toujours. Mais en priorité, c'est au pardon, à la demande pardon qu'il veut répondre. Que ton règne vienne, est la deuxième parole en découpant le Notre Père. Ça veut dire que je fais une demande à Dieu qui est quand même particulière. Viens établir ton autorité dans ce monde, et en tout cas dans les parenthèses que moi j'ouvre, pour que tu puisses prendre place. Et Jésus répondra en deuxième parole au brigand sur la croix, « Je te le dis aujourd'hui ». Et quand Jésus dit au brigand « Je te le dis aujourd'hui », c'est son règne qui prévaut. Jusqu'à cette parole, tu es en train de mourir sur la croix, mais tu es en train de partir pour l'éternité dans la séparation, dans la seconde mort. Mais parce que tu viens de prier « Souviens-toi de moi », alors le règne s'établit, l'autorité s'établit instantanément, je te le dis aujourd'hui. Là où nous discutons, c'est sur la virgule, elle est à quel endroit. Voilà. Mais c'est notre seule latitude de discuter sur la virgule, c'est-à-dire sur un détail qui n'existe même pas de fait. Que ta volonté soit faite, troisième parole de que Jésus répondra et indiquera à l'apôtre Pierre, que ta volonté soit faite. Et là, il y a un calage. Pour que tout fonctionne, il faut que tout soit bien calé. C'est valable dans tous les domaines, et particulièrement pour un moteur. Il faut que tout soit bien calé. Et là, il y a un calage entre ma volonté et celle de Dieu. Et tant que ma volonté et celle de Dieu ne sont pas calées, et on sait très bien laquelle doit être calée par rapport à l'autre, puisque une est la parfaite et la référence, et l'autre doit être calée en fonction des indications qui sont données. Eh bien, que ta volonté soit faite. Fais appel à la connaissance de la volonté de Dieu. Or, nous l'ignorions, la volonté de Dieu, en totalité. Donc, pour que je puisse dire que ta volonté soit faite, il faut peut-être que j'aille chercher la volonté de Dieu. Connaître sa volonté au travers de sa parole. Et je vais découvrir qu'elle est bonne, qu'elle est agréable et qu'elle est parfaite. Et je vais comprendre, comme dira l'apôtre, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans ma vie, qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui, pour l'avenir, dans ma vie privée, en perspective d'un couple et d'une famille, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as formé sur moi comme projet? Parce que j'ai découvert cela, je l'ignorais avant, que tu étais le Père éternel qui avait prévu des projets pour ma vie, je ne savais pas. Et quand je l'ai découvert, eh bien je suis venu vers toi pour te dire, Seigneur, moi j'avais prévu ça, pensé à ça, mais je réalise, je prends conscience maintenant que toi, tu as aussi prévu quelque chose. Alors, il y a un choix à faire. Est-ce que je vais continuer selon mes projets? C'est possible. Ou est-ce que je vais demander à Dieu de me faire connaître les siens? Et puis après, je vais me caler. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et je vais avoir comme cela une correspondance avec la volonté de Dieu. La troisième parole que Jésus indiquera, c'est quand il va s'adresser à sa mère et à Jean, et il va dire, voilà ton fils, voici ta mère. Il est en train de modifier les choses par nécessité. Normalement, ses frères et sœurs auraient dû être là. Et c'est au frère cadet que le Seigneur Jésus aurait dû, en tant que frère aîné, confier sa mère. Mais il n'y a plus personne. Ça veut dire que le Seigneur est capable de caler aussi sa volonté à la situation telle qu'elle est. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a plus les frères et sœurs. Alors, femme, voilà ton fils. Et toi, Jean, voici ta mère. Et le Seigneur a redonné une configuration. Ça veut dire que dans nos vies, Dieu est un Dieu qui s'adapte. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas écouté. Obéis à la volonté de Dieu que tout est gâché à jamais. Et c'est ça qui est particulier pour nous. On a l'impression qu'il y a le projet de Dieu, et il n'y en a pas d'autre, il ne faut pas le rater. Qui d'entre nous n'a jamais raté de comprendre ce que Dieu voulait? La première sortie, dans la semaine, j'ai dû aller sur Montpellier, je pensais à autre chose, j'ai raté la sortie, j'ai atterri aux autres sorties de Montpellier à 9h du matin, alors vous avez compris. Et ça nous arrive tout le temps. Il y a toujours une autre solution, elle ne sera pas la même, mais on arrivera quand même au bon endroit. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Si quelqu'un avait dans son cœur ce fardeau pesant, mais je sais, et personne d'autre ne le sait peut-être ce matin, je sais que j'ai raté ta volonté. Et ça me pèse. C'est comme un fardeau, c'est comme un reproche que je me fais à moi-même, parce que Dieu ne vous le fait pas. Le Fils a raté le projet du Père, mais jamais le Père ne fait de reproche au Fils prodigue. Alors, ne prenons pas le risque de parler à la place de Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et parfois, nous parlons à nous-mêmes à la place de Dieu. C'est un mauvais langage, parce qu'il n'est pas bon déjà, et surtout, ce n'est pas celui de Dieu. Et le Fils, qu'on appelle prodigue, a raté le projet initial. Mais quand il revient vers le Père, c'est un nouveau départ. Et il y a eu un ratage, mais on n'en parle plus. Maintenant, il est revenu et on recommence et on continue. Ça veut dire que dans nos vies, quand bien même nous aurions raté, en pleine connaissance de cause, ce que Dieu voulait pour nous, ce n'est pas fini. Il va se recaler en permanence et nous donner un autre avenir, un autre chemin de bénédiction. Parce que Dieu est capable de faire ça. Il est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et nous n'avons pas cette capacité. Et parce que nous ne l'avons pas, nous pensons que parce que je désobéis, eh bien voilà, maintenant ce qui m'arrive, je le mérite. Peut-être, mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur ne se servira jamais de nous. Regardez, parce que sinon on serait en porte-à-faux total avec les Écritures, regardez dans l'Ancien Testament ces hommes et ces femmes de Dieu, combien ont raté la première sortie, le premier plan, le premier projet. Tous n'ont-ils pas été bénis avec une intervention du Seigneur qui est capable de reprendre les choses en main à n'importe quel moment. Quatrième parole, donne-nous notre pain quotidien. C'est une demande, donne-moi ce qui vient d'en haut et permets-moi de pourvoir aux choses. Donne-moi. Et pour que nous puissions avoir une réponse à tous les donne-moi, il est allé payer le prix de celle qui devait être réglée, le pardon des péchés. Donne-moi, donne-nous notre pain quotidien. Ne demande pas au Seigneur de payer un prix extraordinaire. Il est capable puisqu'il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Il a fait pleuvoir la manne dans le désert, tomber la manne dans le désert. Seulement dans les donne-moi va arriver à un moment donné, pardonne-moi. C'est la même chose. Et pour recevoir le pardon, alors il faut que le prix soit payé. Et là, on entend « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est extraordinaire d'entendre « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» On ne va pas le considérer comme on l'a déjà fait du côté du ciel. Ce qui s'est passé là-haut, à ce moment-là, entre le Père et le Fils, mais pour une fois, on va le regarder du côté de la terre, en bas. Parce qu'il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Moi, il faut que je l'interprète à mon niveau. Jamais je ne serai abandonné. Parce que dans la situation où j'aurais pu l'être, il a payé le prix pour que je ne le sois pas. Parce qu'il a payé le prix du pardon de mon péché, quand je lui demande « pardonne-moi », il pardonne. Et tout est réglé. Pardonne-nous ! Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus dira comme cinquième parole, j'ai soif. Pour nous, le pardon, on l'a pris ce matin sous forme de souvenir et de mémorial, c'est la coupe de bénédiction que nous prenons, c'est le pain, c'est le vin. Et quand nous prenons le pain et le vin, tous ceux qui le préparent, depuis cette soirée initiale où la Sainte-Cène a été instaurée, le pain était bon et le vin était bon, même si c'était du pain azim. C'était du pain qui n'était pas, dépassé dans le temps. Mais quand Jésus a dit « j'ai soif », c'est du vinaigre qui lui a été présenté. Alors, le corps médical va expliquer le pourquoi du vinaigre avec ce qu'il y avait dedans, comme un analgésique léger. Néanmoins, quand nous prenons une bénédiction, le pain et le vin depuis la rencontre de Melchisédek avec Abraham, c'est un symbole de bénédiction. Pain et le vin, c'est un symbole de bénédiction depuis la nuit des temps. Mais lui, c'est du vinaigre qu'il a eu. Pendant la période de fête, sur la table, celui qui va ouvrir une bouteille et qui va réaliser, parce qu'il va goûter le premier avant de servir les autres, que c'est du vinaigre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous et moi allons faire? Eh bien, on va être un petit peu honteux et confus. Zut, je ne pensais pas que ça avait tourné. On s'en débarrasse pour amener autre chose. Parce qu'on ne veut pas servir à quelqu'un du vinaigre. À moins qu'on ait perdu le goût, qu'on ne s'en rende pas compte. Mais quand moi je lui dis pardonne-moi, et je le prends en mémoire de lui, je sais que lui, il a eu du vinaigre à la place. Et dans cette correspondance, je me dis, toutes les mauvaises choses, Seigneur, c'est toujours toi qui les as payées. C'est toujours toi qui les as prises. Ne nous induis pas en tentation. Ma position dans ce monde, c'est d'être vulnérable à la tentation. Et la tentation, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau des des yeux, au niveau des oreilles, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de nos paroles, de nos pensées. Eh bien, ma prière, c'est de pouvoir dire, Seigneur, ne me laisse pas dans cet état. Ne nous induis pas en tentation, signifie autrement dit, ne me laisse pas dans cet état de fragilité à cause du péché. Et cette parole qui retentit à la croix l'avant-dernière, tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que le pardon acquis, désormais, il nous envoie de son esprit. Et vous et moi, nous sommes, par la grâce de Dieu, les vases dans lesquels Dieu déverse son esprit. Et on n'a pas fini d'en mesurer l'efficacité, d'en mesurer toute la signification. Recevoir l'esprit de Dieu. Alors les uns vont discuter sur le parler en langue, sur sa forme, etc. Personnellement, je voudrais prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Il nous donne de son esprit. Jusqu'où pouvons-nous aller dans la vie de l'esprit? C'est peut-être ça la vraie question. Jusqu'où Dieu nous appelle et nous attend dans la vie de l'esprit? Est-ce que vous et moi avons été déjà au bout de cette dimension dans la vie de l'esprit et dans la communion avec Dieu? Un temps intense spirituel fait que la montre, on a perdu la mesure. Ça peut être 3 minutes, ça peut être 1 heure. C'est comme si on se réveillait d'avoir vécu quelque chose de particulier. Il faut que nous y allions jusque-là. Parce que Dieu nous y invite. Car c'est à toi qu'appartiennent, et c'est la dernière parole, dans tous les siècles règne la puissance et la gloire. Et la dernière parole de Jésus sur la croix, elle est terrible. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce qui signifie que quand j'ai fini de prier, je remets tout entre les mains de Dieu. Parce que tout est accompli, conformément à la parole, je remets tout entre les mains de notre Père. Et pour nous, c'est pareil. Quand, conformément à la parole, j'ai suivi eh bien, toutes les indications qu'à mon niveau, tout est accompli, alors je remets tout entre les mains de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire avant. Parfois, nous remettons le bébé entre les mains du Seigneur. Une situation mal engagée, mal gérée, mal vécue, etc. Pour s'en sortir, on dit, ben, Seigneur, interviens, Seigneur, agis, fais-le. Ce n'est pas le moment. Non, notre part n'est pas finie. Finissons notre part, afin que Dieu puisse prendre le relais et faire la sienne. Et dans la vie chrétienne, et je terminerai avec ça, entre Dieu et nous, c'est toujours une question de partenariat, de collaboration. Nous sommes ses serviteurs, il est le maître. Et il nous dit, tu fais jusque-là, et moi je fais à partir de là. Voilà. Et ne demandons pas au Seigneur d'anticiper, parce que nous avons cette tendance naturelle à lui demander d'anticiper, à tel point qu'au bout d'un moment, je ne fais plus rien. Et il s'occupe de tout. Et ça, c'est l'erreur et le piège dans lequel eh bien, certaines croyances sont tombées. Moi, je prie. De A jusqu'à Z, je prie. Je m'occupe de rien, je fais rien, je prie. Pour que Dieu fasse tout. Fondamentalement, c'est erroné. C'est faux. Et puis, il y en a d'autres, ils sont dans l'erreur inverse. Ils pensent que tout dépend d'eux. Et ils ne s'arrêtent jamais. Arrêtez-vous. Arrêtons-nous quand nous devons nous arrêter dans une situation quelle qu'elle soit. Quand on a estimé et pris la mesure conformément à la parole que eh bien, on a fait ce qu'on devait faire, et maintenant nous prions pour que Dieu agisse. Et dans cet équilibre parfait, eh bien, tout va aboutir. Tout va aboutir. Tous ceux qui ont prié et agi dans cet équilibre parfait entre eux et le Père ont amené le résultat qui était escompté, l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on l'a vécu, et on en a été témoin en permanence. Et je vous prends des exemples les plus difficiles, notamment celui d'un couple, où quand on s'est déchiré, on peut s'arranger avec d'autres. Mais avec celui avec celle avec qui on vit 24 heures sur 24, c'est complètement différent. Eh bien, des couples, c'était avec des erreurs énormes, c'était passé. Jusqu'à la tromperie, jusqu'à l'adultère. Et parce qu'il y a eu un retour de l'un vers l'autre, conformément à la parole, une demande de l'un vers l'autre, sur la base de la parole de Dieu, quand l'un a fait ce qui devait être fait, alors l'autre a pu faire ce qui qu'il devait faire. Chacun a payé le prix quand il s'agissait de l'adultère, évidemment, mais on a vu des couples se reconstruire. Des couples se reconstruire. Et ça, c'est le miracle de Dieu et la démonstration que, eh bien, tout peut arriver malheureusement, mais comme tout est accompli, tout peut être rattrapé aussi. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à notre niveau, dans nos situations, elles sont complètement différentes de l'un à l'autre, à prendre la mesure de cela et à faire ce qui convient pour que Dieu puisse faire le reste. Amen.